ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge. Au sommaire de cette édition du 18 mai 2017, la police de Kinshasa appelle la population à dénoncer des détenus évadés de la prison Makala. En République du Congo, la coalition Tournons la page réclame le report des législatives prévues le 16 juillet. Des enfants exploités dans les mines d'or dans le sud Kivu, en RDC.
Moi, j'ai 7 petits frères que je dois nourrir. Quand j'ai 10 000 francs le jour, je leur donne 5 000 francs.
Un reportage de notre correspondant Ernest Mouerou. 2 300 migrants secourus sur 22 embarcations de fortune au large de la Libye. Un ex-militaire américain a renversé des piétons à New York, faisant un mort et 22 blessés. La piste terroriste n'est pas évoquée. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. La police congolaise a appelé la population de Kinshasa à dénoncer la présence éventuelle dans leur voisinage de détenus évadés à la suite de l'attaque la veille de la prison Makala. Hier, de nombreux détenus se sont évadés de la grande prison surpeuplée après une attaque nocturne contre cet établissement. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a accusé les adeptes de Bundudi à Congo d'être les auteurs et d'être parvenus à faire évader une cinquantaine de prisonniers dont leur gourou n'est moins d'Anseme. En République du Congo, une coalition d'ONG a appelé au report des élections législatives prévues le 16 juillet, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'un scrutin transparent, dit Lédico.
Sur décret du président Sassou Nguesso, le premier tour des législatives devrait se tenir pour la première fois en même temps que les élections locales et municipales le 16 juillet. 151 sièges sont à pourvoir. La nouvelle assemblée aura 12 députés de plus et le second tour est prévu le 30 juillet. La coalition Tournons la page demande l'ajournement des élections jusqu'à ce qu'une refonte du fichier électoral soit faite. Les autorités ont lancé depuis la semaine dernière une opération de révision des listes. La coalition d'ONG souhaite aussi la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante et s'interroge sur l'utilité d'un scrutin sans garantie de transparence depuis la réélection de M. Sassou Nguesso en mars 2016. Selon cette coalition, la région du Poule, théâtre de violence, devrait être une priorité absolue du gouvernement car des milliers de personnes déplacées ne pourront pas voter.
Les autorités nigérianes sont revenues sur leur déclaration de la veille. Cette semaine, une fille de 15 ans a été retrouvée par l'armée après s'être échappée de ses ravisseurs de Boko Haram. Mais elle ne fait pas partie des 219 adolescentes kidnappées en 2014 à Chibok et Kiabadou.
L'espoir n'a été que de courte durée. La jeune Maria Mohamed Issa est bien lycéenne à Chibok, mais elle ne fait pas partie des 219 adolescentes kidnappées en 2014. Jeudi, les autorités nigérianes ont apporté ce démenti formel après avoir annoncé le contraire la veille. Les doutes avaient commencé avec l'identité de la jeune fille postée sur le compte Twitter de la vice-présidence. Le mouvement Bring Back Our Girls, qui fait campagne depuis 3 ans pour la libération des jeunes filles de Chibok, a aussitôt répliqué « Nous ne retrouvons pas son nom ». On ignore encore quand la jeune Mariam a été enlevée. Les filles de Chibok sont devenues, malgré elles, le symbole des enlèvements perpétrés par Boko Haram. Il y a quelques jours, 82 lycéennes ont été relâchées grâce à la médiation de la Croix-Rouge et de la Suisse.
Quelques 2 300 migrants ont été secourus jeudi sur 22 embarcations de fortune au large de la Libye, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Le Prudence de Médecins sans frontières avait 770 personnes à bord ce jeudi soir, dont de nombreux enfants, le plus petit étant âgé de 6 semaines. L'Aquarius de SOS Méditerranée a recueilli 560 personnes et le Phoenix de l'ONG maltaise MOAS 360. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation a été interdite dans plusieurs zones de l'ouest du Niger en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali. Salwa Jafari.
Ces mesures entrent dans le cadre de l'état d'urgence reconduit à la mi-mars pour 3 mois face à la persistance des attaques dans plusieurs départements de Tillabéri et Taoua, limitrophes du Mali. Dans cette zone enclavée, les motos sont devenues les principaux moyens de déplacement des assaillants qui se ravitaillent en vivres et carburant sur les marchés locaux. L'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit et des fouilles, y compris dans les camps de réfugiés maliens établis dans ces régions. Au total, 16 marchés ruraux ont été fermés selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey. L'ONU dit avoir répertorié 34 attaques perpétrées depuis février 2016 dans les régions de Tillabéri et Taoua, où des djihadistes armés visent régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés.
Un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait être testé dans la zone du nord-est de la RDC, touchée par une épidémie, a annoncé l'OMS, précisant qu'il pourrait être acheminé rapidement si les autorités donnent leur feu vert. La maladie a été détectée dans une zone isolée du Bawele. 2 cas ont été confirmés en laboratoire, 18 autres sont suspects et 3 personnes sont mortes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un ex-militaire américain avec un casier judiciaire a renversé en voiture des piétons sur Times Square à New York, faisant un mort et 22 blessés, dont 7 dans un état critique. Rien n'indique qu'il s'agissait d'un acte terroriste, a déclaré le maire de New York, ajoutant que l'enquête se poursuit et que les autorités ont renforcé la présence policière à certains endroits clés. Donald Trump s'est dit victime de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine au lendemain de la nomination d'un procureur spécial pour l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle. John Lindon.
Dans une série de tweets matinaux dont il est coutumier, Donald Trump a dénoncé la plus grande chasse aux sorcières contre un homme politique dans l'histoire américaine. Cette réaction fait suite à la nomination mercredi de l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, comme procureur spécial pour garantir l'indépendance de l'enquête sur une éventuelle collusion entre des proches de Donald Trump et la Russie. Une décision applaudie par de nombreux élus démocrates et républicains. Donald Trump accuse également la campagne d'Hillary Clinton et la présidence de Barack Obama d'actes illégaux pour lesquels, dit-il, un procureur spécial n'a jamais été nommé. Le milliardaire républicain s'était déjà plaint mercredi d'être maltraité par les médias. Selon le New York Times, le président aurait demandé à James Comey, le directeur du FBI, qu'il a limogé par la suite, de ne pas poursuivre l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie. Si cette information est confirmée, cela pourrait constituer une tentative d'entrave à la justice.
Les Palestiniens prennent au sérieux la volonté du président américain Donald Trump, attendu la semaine prochaine en Cisjordanie, d'aider à un règlement du conflit israélo-palestinien, a déclaré le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Malki. Monsieur Malki s'est exprimé à Mascate, où il a accompagné le président palestinien Mahmoud Abbas en tournée régionale avant le sommet américano-arabo-musulman dimanche à Riyad avec la participation de Monsieur Trump. Guerre en Syrie, 52 personnes ont été tuées dans une attaque du groupe État islamique contre 2 villages de la province de Hama, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans les combats, les djihadistes ont perdu 15 militants. L'agence officielle Sana a affirmé que l'attaque avait coûté la vie à 20 civils à Kareb, sans faire mention du village de Mabouje. Un complexe destiné à accueillir 990 orphelins de la guerre en Syrie a ouvert ce jeudi dans le sud de la Turquie, a annoncé la fondation humanitaire turque IHH. Le centre sera composé de 55 maisons, 3 écoles, une mosquée, une clinique et des carrés de terre à cultiver à Reyhanli, près de la frontière syrienne. Selon l'UNICEF, plus de 2,3 millions d'enfants sont réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Égypte et en Irak. Les marchés brésiliens plongeaient jeudi matin au lendemain de révélations impliquant le président Michel Temer qui aurait été enregistré en train de donner son accord pour le versement de pots de vin. En milieu de matinée, le Real dévissait de 5,46% tandis que la séance à la bourse de Sao Paulo était suspendue après une chute de plus de 10%. Et la chef de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen, battue à la présidentielle face à Emmanuel Macron, annonçait qu'elle sera candidate aux législatives dans le nord de la France. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a inauguré aujourd'hui à Bangui un nouveau complexe agro-industriel dont l'ambition est de produire au moins 12 000 bouteilles d'eau par jour. L'usine devrait employer près de 300 personnes. La RCA, qui connaît un problème en eau potable, devrait, avec cette unité agro-industrielle, réduire la quantité d'eau en bouteilles qu'elle importe, notamment du Cameroun. En République du Congo, la société française Samdia va construire une unité de production industrielle agroalimentaire à Pointe-Noire. Ce projet est composé d'un moulin qui devrait produire quelque 70 000 tonnes de farine de blé, une usine d'alimentation animale située dans l'enceinte portuaire et un élevage de plus d'un million de poussins en périphérie de Pointe-Noire. 70 emplois directs et une centaine d'emplois indirects seront ainsi créés. Au Cameroun, résultat étonnant d'une étude comparative du ministère de l'Économie. Les opérateurs économiques chinois ont une forte tendance à créer des entreprises sans gros investissements au départ et réalisant des bénéfices immédiats mais faibles. Les PME françaises, plus orientées vers la production, apportent deux fois plus de croissance.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par la CAN des moins de 17 ans au Gabon, la deuxième journée.
À suivre ce jeudi dans le groupe B, Mali-Niger. Un peu plus tôt cet après-midi, la Tanzanie et l'Angola s'affrontaient. Et ce sont les jeunes Tanzaniens qui s'imposent 2-1. Hier, deuxième gifle pour le pays organisateur. Les Panthères gabonaises ont encore pris 5 buts hier soir à Port-Gentil face au Ghana. Une défaite 5-0, 10 buts en 2 matchs. Après la première déroute infligée par la Guinée lors de la première journée du groupe A, les Black Starlets se qualifient pour les demi-finales de la compétition et pour la Coupe du Monde de la catégorie. Quant aux Camerounais qui en avaient pris 4 lors du premier match, ils se sont repris, score final 1-1 contre la Guinée.
Premier titre de la saison pour la Juventus.
La Juventus a remporté la Coupe d'Italie pour la 12e fois de son histoire, la 3e fois d'affilée, en battant en finale la Lazio de Rome 2-0. Intraitable, les Turinois sont sur le point de réaliser le doublé championnat-coupe pour la 3e saison consécutive. Pour la Serie A, il faudra attendre encore un peu pour les leaders qui ont 4 points d'avance avec 2 matchs encore à jouer.
Et en Espagne, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre.
En écrasant le Celta Vigo 4-1 hier soir en Galice en match en retard de la 21e journée, le Real Madrid n'a désormais plus besoin que d'un point lors de la dernière journée pour être sacré champion d'Espagne. Il suffira d'un nul au Real sur la pelouse de Malaga dimanche pour être certain de remporter une Liga qui lui échappe depuis la saison 2011-2012.
On passe au tennis, les Masters de Rome.
Oui, l'américaine Venus Williams, 12e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Rome grâce à sa victoire en 3-7, 6-1, 3-6, 6-1 sur la britannique Johanna Konta. Chez les hommes, le Suisse Stanislas Wawrinka, 3e joueur mondial, a lui été éliminé en 8e de finale de ce Masters de Rome par l'américain Josh Isner, 24e joueur mondial. L'américain s'est imposé en 7-6, 6-4. En quart de finale, Isner affrontera le croate Marin Cilic, qui a nettement battu le belge David Goffin en 6-3, 6-4.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain, avec la première manche de la finale de la conférence Est.
Cleveland est sans rival dans la conférence Est. Grâce à LeBron James survolté, les Cavaliers se sont imposés à Boston 117-104 et se sont offerts leur 12e victoire consécutive en playoff. Le triple champion NBA et quadruple meilleur joueur de la NBA, LeBron James affole les statistiques depuis le début des playoffs et continue d'impressionner. Il a marqué 38 points hier, dépassant les 35 points pour le 5e match consécutif, en affichant une moyenne impressionnante de 34,8 points par match lors de ces playoffs.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Niger, des mesures sont entrées en vigueur aujourd'hui dans plusieurs zones des régions de Tillaberi et de Tawa, dans l'ouest du pays, en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali voisin. Une quinzaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation de voitures et motos a été interdite dans ces zones. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement.
Le gouvernement a pris des mesures pour l'état d'urgence dans ces régions-là parce qu'elles sont confrontées à l'insécurité. Aujourd'hui, il n'y a ni moto ni voiture qui circulent dans ces régions-là, comme ça s'est passé au fort moment de la lutte contre Boko Haram au sud du pays.
Mais y a-t-il une certaine réticence de la part des habitants, pensez-vous, face à de telles mesures qui paraissent assez draconiennes? Parce que là, justement, on est en train de parler de nombreux marchés ruraux fermés et de la circulation de voitures et de motos interdites, et même de manière permanente dans certains cas.
Oui, vous savez, le gouvernement n'a pas tenu compte de certains effets, notamment la fermeture de ces marchés et de ces boutiques, ce que ça peut engendrer sur le vécu de population aujourd'hui. Le Niger actuellement traverse une crise alimentaire dans beaucoup de régions et le gouvernement n'a pas tenu compte de ces aspects-là quand il a pris ces mesures d'état d'urgence dans ces régions. Et il y a des djihadistes qui font des infiltrations dans cette bande qui va de Tawa aussi le long de la frontière avec la région de Tillaberi. Donc ces populations vivent des moments difficiles face à ces mesures du gouvernement.
Des mesures difficiles mais importantes.
Oui, elles sont importantes pour la sécurité, mais en amont, quand on prend ce genre de mesures, on informe les populations, il faut les aider, il faut leur apporter du soutien. Comme ça s'est passé par le passé dans la région d'Agadez et aussi à Diffa, il faudrait que le gouvernement, les autorités nigériennes fassent un effort pour appuyer ces populations qui, aujourd'hui, n'ont plus de marché. Les boutiques sont fermées, la circulation est interdite dans ces régions-là. C'est des zones frontalières avec des va-et-vient le long de ces frontières-là. Ça permet un échange économique avec certains pays frontaliers. Donc, le gouvernement n'a pas pris de mesures idoines à atténuer les souffrances des populations face aux conséquences de cet état d'urgence-là.
L'ONU dit avoir répertorié 34 attaques perpétrées depuis février 2016 par des groupes armés dans les régions de Tillaberi et Tawa. Pensez-vous que ces mesures vont vraiment pouvoir aider à affaiblir ces groupes?
Non, pas du tout. Ces mesures ne vont pas affaiblir ces groupes-là qui sont très mouvants et qui se fondent dans les populations. Donc moi, je pense que c'est d'autres choses plus réfléchies qu'il faudrait faire.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement, était joint à Niamey au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Pas seulement le cobalt mais également l'or. Amnesty International a longtemps alerté l'an dernier sur le travail des enfants dans les mines de cobalt en RDC. Notre correspondant Ernest Mouero a rencontré des enfants travaillant dans des conditions périlleuses, parfois plus de 12 heures par jour, dans des mines d'or à Kamituga, dans le sud Kivu.
Ils sont des centaines les enfants qui travaillent dur dans les sites miniers du sud Kivu, aux côtés des creuseurs artisanaux, selon l'organisation Justice pour tous. Dans la cité aurifère de Kamituga, à 180 km à l'ouest de Bukavu, nous trouvons un grand chantier minier à découvert dans la localité de Kitemba Mero, au quartier Chanda. Le président de la nouvelle dynamique de la société civile en territoire de Mwenga sort les statistiques. Mwati Mwendambali Benoît.
L'exploitation artisanale occupe presque 99% 60% de la population ici, 70% d'enfants ici ne fréquentent pas l'école.
À première vue, d'innombrables tunnels tels des labyrinthes frappent le regard avec un enchevêtrement des tuyaux qui facilite la respiration dans les sous-sols. Le site est coiffé de petites constructions sommaires en bâches couleur bleue où certains creuseurs reprennent des forces ou se nourrissent. Parmi eux, des enfants et adolescents qui, insouciants, transportent à longueur des journées des sacs lourds contenant du sable déjà trié pour qu'à leur tour ils le lavent, tamisent afin d'en tirer des déchets d'or. David a 16 ans, il a abandonné les études en 4e année primaire.
Je suis ici pour chercher de l'or. Pour en trouver, ce n'est pas facile. Les études, ça on a abandonné. D'ailleurs, nous sommes nombreux, les enfants qui bossent ici. Nous arrivons dans les carrés miniers à 6h du matin pour sortir à 18h et des fois nous passons la nuit dans les tunnels pour repartir le lendemain matin. Le seul problème, c'est de tomber des fois malade. Or, moi j'ai 7 petits frères que je dois nourrir. Quand j'ai 10 000 francs le jour, je leur donne 5 000 francs.
5 000 francs congolais équivaut à moins de 4 dollars américains. Eric Ombeni a travaillé jadis dans les mines pendant son adolescence. Il en garde un souvenir amer.
J'ai eu à y travailler pendant 5 ans pour payer les frais scolaires. Imaginez-vous, vous êtes sous les sols. Parfois, il y a des éboulements. Parfois, il y a des manques d'oxygène. Les gens meurent par asphyxie.
Pour le coordonnateur de l'ONG locale Justice pour tous, Eric Kitungano,
il y a lieu de signaler qu'il y a des enfants parents. Beaucoup de parents n'ont pas d'emploi. La présence de ces enfants dans les mines, sur le plan sécurité, sur le plan épanouissement, il y a des problèmes. Vous savez, dans les mines, on utilise beaucoup d'outils, on utilise des métaux. Il y a ceux qui utilisent le mercure qui peuvent nuire à la croissance.
D'aucuns estiment qu'il faut un travail de synergie entre la police de protection de l'enfance, les services sociaux et les organisations de défense des droits de l'enfant pour arrêter l'hémorragie de Kamitouga en province du Sud Kivu. Ernest Mouero, VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Les enfants réfugiés soudanais installés dans 4 camps de l'est du Tchad font face à une malnutrition qualifiée de critique par les acteurs humanitaires opérant sur le terrain. Une situation due à la réduction de la ration alimentaire ces dernières années. Notre correspondant André Kodmajingar s'est rendu dans le camp d'Ouré Kassouni.
C'est le cri d'un enfant malnutri en consultation au centre nutritionnel situé en plein désert à 55 km de la ville d'Andaras et à 7 km de la frontière Tchad-Soudan. Le camp de Ouré Kassouni est le plus grand camp de réfugiés soudanais ayant fui la guerre du Darfour depuis 2003. Et c'est ici que la prévalence de la malnutrition est très élevée. Pour preuve, les résultats de l'enquête menée en décembre dernier ont présenté une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 18,9%, la malnutrition aiguë sévère de 3% et la malnutrition chronique de 20%. Docteur Diouf, lui, Martin, coordonnateur santé pour la sous-délégation du ICR Diriba, explique le mécanisme de la prise en charge des enfants malnutris.
Nous avons 3 unités. Une unité qui s'occupe de malnutrition sévère avec complications. On a aussi ce qu'on appelle les UNA, donc qui s'occupe des malnutritions sévères sans complications. Et une autre unité qu'on appelle les unités nutritionnelles supplémentaires qui s'occupent seulement des malnutritions modérées.
Pour lutter contre la malnutrition qualifiée de critique par les acteurs humanitaires dans la zone, l'OICR lance un nouveau système de diversification des denrées alimentaires avec un programme de prévention. Ce programme vise à augmenter la ration alimentaire de 800 calories à presque 1260 kilocalories par personne et par jour. Le chef de bureau du ICR d'Ambiaras Diallo Bemba explique les modalités de distribution des coupons aux bénéficiaires.
Ce programme prévoit 10 000 francs CFA par femme allaitante et par femme enceinte. Nous avons au total 1480 femmes dans le programme, mais pour diminuer les charges, au lieu de faire une distribution chaque mois, on a planifié 3 distributions. Donc, au lieu que les femmes aient 10 000 francs par mois, cette distribution, c'est 20 000 francs. Donc, chaque coupon représente 2 000 francs. On a identifié les commerçants réfugiés qui se sont organisés en 4 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des femmes avec une gamme de denrées alimentaires. Le deuxième groupe, avec la viande, les volailles. Le troisième groupe, les céréales.
La situation de la malnutrition dans le camp de Ouré Kassouni en particulier s'explique également par son environnement aride et désertique. Un environnement caractérisé par la rareté de la pluie, même en saison pluvieuse, comme en témoigne le délégué régional de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion de réfugiés, Ousmane Brahim Niman.
Le camp de Ouré Kassouni est situé dans un désert. Le terre est là. mais il n'y a pas la saison pluvieuse. Il pleut une fois ou deux fois par an. Ça, je crois que c'est insuffisant de faire la culture maraîchère dans la zone.
André Kodnoumadjingar, Amdjaras pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Aux États-Unis, le département de la justice a nommé un procureur spécial pour enquêter sur les liens présumés entre la Russie et la campagne électorale de Donald Trump. Le président américain, lui, parle de cabale politique en réaction à cette nomination. Pour une analyse, Abdourahmane Dia, adjoint à Washington, Greg Wyrsinski, ancien journaliste au Time Magazine.
Eh bien, c'est une petite surprise, mais en fait, tout pointait dans cette direction. Il y avait beaucoup de pression des deux côtés, du côté démocrate et un petit peu moins de même du côté républicain, mais en fait, il y avait une pression énorme dans le Congrès pour que un procureur spécial soit nommé.
La nomination de Robert Mueller, un ancien directeur du FBI, semble donc bien accueillie par les démocrates et les républicains. Quel sera son rôle?
Bien, c'est un homme d'une réputation sans reproche. Son rôle sera de faire une enquête approfondie sur les relations entre, s'il y en avait, des relations entre la campagne de Trump et des éléments russes et peut-être autres. La différence entre lui et M. Comey, enfin, qui était le patron de la FBI sortant, serait simplement que M. Mueller a un air d'indépendance plus assurée. Il n'est pas responsable directement au président. Il est un homme, je crois, surtout par sa personnalité et son indépendance qu'il avait manifestée avant. C'est un homme qui a la crédibilité de faire une enquête que tout le monde pourra accepter.
Sa nomination n'empêche pas l'enquête du FBI et la police fédérale de se poursuivre tout de même.
Non, cette enquête sera poursuivie par la FBI. Seulement, lui devient le chef de l'enquête au lieu du directeur de la FBI, mais il utilise tous les mêmes moyens.
Et quelle implication politique cela peut avoir? On a vu le président Trump ce matin parler d'une cabale, d'une chasse aux sorcières contre lui.
Écoutez, ça peut aller dans toutes directions possibles parce qu'on ne sait pas encore quels seront les résultats. Enfin, tout dépend des résultats. S'il est exonéré, c'est un grand avantage pour Trump. S'il ne l'est pas, si l'enquête découvre des liens compromettants, ça pourrait éventuellement conduire à ce qu'on appelle ici un impeachment, c'est-à-dire une procédure pour le faire démissionner.
C'était le journaliste américain Grégory Wyrsinski.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Sims Loumami. À la console, c'était Cornelius Tinus. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous avec un petit peu de musique pour terminer.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.